Une belle plante. J'ai croisé un ours. Ce n'était pas Balou, mais un vrai, pas très cool. Un ours brun qui habitait dans les montagnes boisées de la Colombie-Britannique sur l'île de Vancouver. Je l'ai regardé, tétanisé, tremblant, en m'efforçant de rester immobile tandis qu'il me toisait d'un air supérieur, pas très amène. Puis, il s'est approché tout près, trop près, m'a senti en faisant montre d'une indifférence plutôt humiliante pour l'imbu que je suis. Il est reparti comme il était venu, après avoir prélevé sa dîme, en l'occurrence toutes mes provisions. Me trouvant fort dépourvu, je fus contraint de renoncer à mes derniers jours de retraite dans les montagnes. J'ai donc téléphoné à l'amant de ma femme pour ne pas les surprendre dans un exercice qu'ils affectionnent et surtout qu'ils aient le temps de se laver. Je déteste sentir sur elle l'odeur de mon meilleur ami, en tout cas qui le fut et qui croit l'être encore. Je hais le mensonge. Pour cette raison, je ne peux pas être jaloux de leur histoire. La tromperie est surtout dommageable pour les trompeurs, quoi qu'on en dise. Mais revenons aux ursidés, pour qui j'ai une véritable fascination. Comme nous, ils ont l'homme pour seul prédateur. Comme nous, ils l'ignorent. Comme nous, ils sont capables d'indolence crasse et d'une violence extrême. Chaque fois que j'en rencontre un, j'ai l'impression d'avoir en face de moi ma propre image en plus poilue. Puisqu'ils sont omnivores, comme nous, et parfois végétariens, souvent par obligation, comme nous, je me suis penché sur leur régime alimentaire. Ma curiosité fut vraiment satisfaite lorsque j'ai rencontré un vieux dresseur d'ours moldave. Je l'ai rencontré lors d'un voyage qui devait m'amener au bord de la mer Noire. Petru m'avait pris en stop avec mon gros sac à dos. Il me proposa de gîter chez lui. Il habitait une grande maison en pisé qu'il avait construite en quelques années et dont il n'était pas peu fier. Il maîtrisait la langue anglaise, ce qui facilita les échanges, lesquels furent suffisamment riches pour ce qui devait être une soirée de 20 quelques semaines. Rapidement, Petru chercha à me faire partager sa passion pour les ours. Il me présenta Daniela, une ours brune au regard de braise avec qui il vivait une véritable histoire d'amour. L'animal, plutôt vif, passait le plus clair de son temps à jouer à la balle avec ou sans Petru. Daniela, toujours en forme, était très douce, plutôt prévisible, ce qui est rare chez les ours. J'avais l'impression qu'elle ne voulait pas m'effrayer. Elle s'efforçait de ralentir ses mouvements, éviter les gestes brusques pour que je puisse me sentir bien auprès d'elle. Petru dormait et mangeait souvent, en toute confiance, avec Daniela, les mêmes aliments. Petru était végétarien pour l'essentiel. Il était persuadé que la grande sérénité de Daniela était due à son alimentation, autant qu'à l'attention qu'il lui portait. De là à franchir le pas et établir une corrélation entre douceur et alimentation végétale, la similitude était tentante. Je me fis l'apôtre du végétal, sans vraie raison, mais avec le sentiment de l'évidence, seul capable de nous faire sortir de nos léthargies. C'est au bord du Prout que je pris la décision de migrer au Canada pour rencontrer d'autres ours. Je ne fus pas déçu et reste, à ce jour, admiratif de ce bel animal. Je me rêve souvent en grizzly parce que personne ne me demanderait de justifier mon choix végétarien ou de rendre des comptes aux mangeurs de chair, chair. Sans compter que passer pour un social trait à la cause des éleveurs est injuste et injurieux. J'ai beau dire à ce beau monde majoritaire, qui apparemment donne le droit d'avoir raison et de dire toutes les conneries, que le seul fait d'être omnivore, incontestable, ne m'empêche pas de choisir une autre alimentation. Rien n'y fait. Je suis un être à part qui n'a pas les bonnes raisons. La différence, qu'elle nuise ou pas, n'a jamais les bonnes raisons. La différence a tort. Le plus grand nombre se rassure ainsi. En attendant, je pète du chou farci à la protéine de soja et je vous emmerde. Vous, les bouffeurs de barbac, je ne me sens redevable de rien. Vos sarcasmes comme vos théories ne m'atteignent plus. Je ne pose de problème à personne en ne mangeant que ce que je suis capable de tuer. Je n'ai pourtant aucune sympathie particulière pour les bêtes que je truciderais et dévorerais en cas de disette, comme je truciderais et dévorerais mes congénères. Mais je ne ressens pas le besoin de les manger, là, tout de suite, maintenant. Je suis bien ainsi. Mon grand-père centenaire, paria de la famille, explique sa longévité en un seul mot, équilibre. Parfois je tends l'oreille, écoute son propos et la voix qu'elle induit. C'est son sens aigu du vivant qui lui a donné l'équilibre. Il n'est pas végétarien au sens strict. C'est un modéré du beefsteak qui a gardé son corps en état de marche en ne le saturant point inutilement. Mon grand-père aime son prochain. Mon grand-père sait que manger de la viande en trop grosse quantité n'est pas bon pour la santé. De toute manière, il n'y en aurait pas pour tout le monde, trop coûteuse en énergie et en surface agricole. Mon grand-père ne théorise pas, ni sur un monde végétal, ni sur un monde carnivore. Il se contente d'être tout en ne faisant pas chier son prochain. Mais le plus grave est ailleurs. Nos sociétés industrielles modernes refusent de voir les dommages du trop carné qui condamne un bon quart de la population mondiale, qui à la misère, qui à la mort. Le cabas de la ménagère pauvre, suralimentée à la viande de piètre qualité, provoque un déséquilibre bien plus important qu'une mauvaise alimentation. Eh oui, il est nécessaire de consommer moins de bêtes mortes pour être en meilleure santé. Ne pas en manger ne gêne pas, mais trop en manger provoque tout un tas de bricoles désagréables. Le monde ne survivra pas avec une agriculture de type industriel à haut rendement qui n'a de sens que pour ses actionnaires. Le retour à la paysannerie est une question de survie. La qualité des viandes comme des végétaux ingérés doit être exempte de tout reproche, et de tout antibiotique, et de tout pesticide. L'ignorer et faire le dos rond en campant sur de nouvelles habitudes, somme toute très récentes, apportera aux prochaines générations des problèmes insolvables. C'est con, non? Mon grand-père, encore, dit souvent que pour faire des cons, il faut s'y prendre à plusieurs fois. Pour ça, rien ne vaut une famille nombreuse et quelques mélanges dans les cousins du village voisin, le zeste de consanguinité. Il faut un imbécile par famille, un idiot par village. C'est facile à réaliser. En revanche, une belle plante, c'est plus rare. Il faut en prendre le plus grand soin. Parce que le règne végétal est mal connu, dès qu'il s'agit d'en parler, ça se gâte. Pas un jour, le quotidien m'étreint tout le temps, c'est pas rien. Sans entendre pléthore de conneries sur le végétal. Les légumineuses, par exemple, ne servent qu'à péter et ne sont riches qu'en mauvaises protéines. Le ridicule à la vie dure. Il prend tout son sens dès lors qu'il s'agit de prendre parti, d'opposer les amateurs excessifs de viande aux extrémistes du végétal. Comme s'il fallait classifier les uns et les autres pour se faire une idée. Un pour ou contre incessant qui accule aux extrémités les plus folles. Les extrêmes, ça ne discute pas, ça aboie. Les débats deviennent quasi religieux, bien évidemment, les prosélytes s'expriment. Tout devient pesant et non productif. Comme si faire un choix pour se nourrir n'était pas une décision intime, le prolongement d'un ressenti, parfois d'un besoin. Bref, ça ne regarde que nous. Mais en attendant, celui qui mange trop de viande ne peut pas ignorer qu'il affame indirectement d'autres gens. Parfois même, il cautionne d'inutiles tortures infligées aux bêtes. Mais en attendant, l'évidence est au changement de comportement et aussi à la curiosité. Et là, le bât blesse. Nos organismes sont contaminés par de la bouffe industrielle, réputée pas chère, alors qu'en fait, les déséquilibres qu'elle provoque sont très onéreux. De la bouffe trop grasse, trop salée, trop sucrée, truffée d'exhausseurs de goût et de tout un tas de choses qui enrichissent l'industrie chimique, ne servant à rien d'un point de vue nutritif. Doit-on continuer à manger ce caca, à le faire manger à nos enfants? Doit-on s'entêter à garder les mêmes habitudes sous le seul prétexte que c'est plus simple ainsi? Doit-on accepter l'uniformité et l'addiction à des produits inutiles et malsains? Doit-on faire confiance à ce génie humain penché sur ses éprouvettes pour nous nourrir sainement? Doit-on être assez stupide pour créer d'autres aliments quand nous disposons de tout? Doit-on vivre dans l'abondance tandis que d'autres gratteront le fond de nos casseroles? Que de questions, monsieur Fripon! Nous pouvons chaque jour, le quotidien m'étreint, tout le temps, c'est pas rien, avoir une véritable incidence en ingurgitant les yeux ouverts. Nous ne pouvons plus dire, nous n'étions pas au courant. Tandis que nous nous baignons dans le prout avec Pétru en mangeant ses noix, Daniela me disait: être omnivore donne le choix, et ça, petit humain, c'est un privilège. En attendant, le végétarien vous cause. Quelle belle plante !